dossier de Jérôme Roy.
Oui, et c'est au Delta qu'on le retrouve alors que se poursuit cette commission présidée par Régine Laurent sur notre jeunesse, mais de façon plus élargie, il faut le dire, oui, sur la DPJ, mais également sur les services sociaux et ce qu'on amène comme révision de nos façons de faire. Bonjour, Jérôme.
Salut, Martin.
Jérôme, donc, deuxième journée et le témoignage d'une intervenante, là, s'est vraiment démarqué.
Ah oui, Martin, écoute, c'est une intervenante qui travaille pour la DPJ de la Mauricie et du centre du Québec, donc la région voisine, elle s'appelle Nathalie Pépin. Elle a eu beaucoup d'aplomb à livrer un témoignage vraiment intéressant. Elle a expliqué, elle a mis en lumière, Martin, ce à quoi elle s'expose lorsqu'elle intervient sur le terrain. Elle a parlé d'abord de charge mentale, parce qu'on parle de... chaque jour, elle doit composer avec les problèmes des autres. Parfois, c'est très lourd. Parfois, il y a même des moments où c'est traumatisant. Il y a des cas très graves qu'elle doit traiter. Elle a parlé de tout ça. Elle a parlé également de l'absence d'aide, de soutien psychologique. Hein. Souvent, elle doit se présenter sur le terrain avec son téléphone cellulaire personnel. Donc, il n'y a pas de cellulaire de travail. Là. En Mauricie, Centre du Québec, ce n'est pas un outil qu'on utilise encore. Puis, il n'y a pas de soutien psychologique comme on retrouve, par exemple, chez les policiers ou chez les pompiers. Puis, elle, ce qu'elle pense, c'est que eux aussi, les intervenantes, elles aussi, en auraient besoin de ce type de soutien psychologique. Elle a également parlé des risques auxquels elle s'expose, parce que c'est difficile à prévoir. Des fois, il y a des situations où on pense que la personne qu'on... Lorsque les intervenantes vont voir des personnes, on pense que ça va bien se passer, que la personne n'est pas violente. Mais là, la situation devient soudainement explosive. Elle a, par exemple, raconté l'histoire d'un père qui a donné un coup de poing à quelques centimètres seulement de son visage, Martin, parce qu'il était choqué. Puis tout ce qu'elle avait, c'était son cellulaire pour appeler le 911 et attendre que les services arrivent. D'ailleurs, j'ai pour toi, Martin, un extrait où elle nous parle de cet enjeu-là de la sécurité pour les intervenants de la DPJ.
Tellement pas. Là. Les gens sont pas... Je pense que les gens sont pas conscients de ce qu'on vit. J'en parle des fois, puis les gens de mon entourage en reviennent pas de ce qu'on fait, puis du fait qu'on n'est pas protégé. Puis même les policiers, il n'y a pas un policier qui nous dit pas quand il nous accompagne dans une intervention, je peux pas croire que vous alliez dans ce milieu-là tout seul. Je peux pas croire que vous alliez là. Nous autres, on les connaît, on va jamais là en bas de deux autos de police. Fait qu'on se le fait continuellement dire par le milieu policier. Là.
Et puis, Martin, ça a un impact, parce que, bon, c'est un milieu très difficile. Ça a un impact sur le personnel, d'autant plus que ce métier-là, c'est pas... Ce qu'elle nous disait, c'est qu'ils sont pas très populaires, les intervenantes, là, auprès de la population, en règle générale, plutôt mal reçues lorsqu'elles se présentent à quelque part, on peut comprendre. Alors, des fois, elle disait que des stagiaires sont vraiment surpris de la lourdeur des cas. En Mauricie, au centre du Québec, elle travaille au sein d'une équipe de 17 personnes, puis ce qu'elle disait, c'est qu'il y en a plusieurs qui cherchent carrément un autre poste au sein du CIUS de la Mauricie du Centre du Québec. Donc, ils cherchent carrément à quitter le monde de l'intervention. Alors, c'est vraiment
De ce que j'ai compris, c'est que, tu sais, quand tu as l'appel pour une intervention à te présenter, même quand c'est un suivi, alors qu'il y a comme, on pourrait dire, une étiquette sur le lieu de résidence, à savoir que il y a une situation problématique, il peut y avoir de la violence... Ces femmes-là, ces gars-là qui se pointent là, ils savent pas du comment la porte va s'ouvrir puis de quelle façon ils seront reçus. Là.
Ben c'est ça. Puis des fois, Martin, il essaie de prévoir justement ces coups-là. Il essaie de dire, là, ça sera pas facile. Il essaie de se protéger du mieux qu'ils peuvent, mais des fois, comme elle le disait, des fois, c'est carrément imprévisible. Puis des fois, il y a des explosions comme ça qu'on n'attend vraiment pas puis qui font en sorte que ces gens-là s'exposent à des risques assez sérieux. Puis je te parlais de la main-d'œuvre, Martin.
L'exode.
Ben, il y a vraiment un exode, mais elle, en tout cas, elle ne veut pas quitter, elle veut rester. On l'entend là-dessus.
J'ai le goût de dire oui. J'ai le goût de dire oui parce que j'y crois qu'on fait une différence. Puis, tu sais, comme j'ai nommé dans la commission tantôt, quand on voit des enfants qui nous font des dessins, puis qui nous disent merci, puis qui nous disent qu'ils sourissent maintenant grâce à nous autres, j'ai le goût de dire que moi, c'est ça qui fait ma paye. Là. Fait que oui, moi, je vais continuer en protection de la jeunesse.
Et il s'était soulevé d'ailleurs par certains syndicats, notamment sur l'exode possible du personnel de la DPJ. Maintenant qu'ils ont possibilité, passe-moi l'expression, d'aller bumper ailleurs dans le réseau. Là.
Ben oui, exactement. Et c'est ça qu'elle parlait. Hein. Maintenant qu'ils ont la possibilité de faire des pas transversales, des pas de côté, si tu veux, là, au sein du réseau, certains en profitent. Mais si elle disait là, que son métier, les intervenants ne sont généralement pas bien reçus dans la population, son témoignage aujourd'hui, elle, a été bien reçu à la commission Laurent, même que Régine Laurent, la présidente, était estomaquée d'apprendre qu'elle devait utiliser son téléphone personnel, Nathalie Pépin, pour notamment composer le 911. Ouais. Donc ça, c'était le dernier témoignage de l'avant-midi là, qui était public. Là.
Oui, juste avant, il y avait des médecins également qui l'ont précédé. Là.
Ben c'est ça. Les docteurs Geneviève Beaulieu et Francis Livernoche qui ont présenté leur projet de pédiatrie sociale et scolaire. C'est un peu comme, tu connais, Martin, le docteur Julien là, et sa pédiatrie sociale. C'est un peu le même concept. Donc, on veut aider les enfants, mais en milieu scolaire aussi. Donc, il y a 10 écoles qui participent ici dans la région. Et ça permet vraiment de mieux percevoir les signaux d'alarme, de mieux intervenir, d'intervenir plus adéquatement. Parce que ce qu'on disait, par exemple, c'est qu'un enfant, on peut penser qu'il souffre d'un trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité, mais dans le fond, c'est un petit gars, une petite fille qui a juste quelques problèmes à la maison, puis que finalement, c'est peut-être pas nécessairement un TDAH. Donc, c'est le genre d'exemple qu'on donnait, là, du genre d'intervention qu'on peut faire ou d'approche plus précise qu'on peut utiliser pour aider les enfants dans leur développement. On a également vanté le faible coût de cette approche-là parce que, dans le fond, c'est le personnel qu'on paye. À part de ça, il n'y a pas d'autres dépenses. On pense même que ça peut être payant à long terme d'aider les enfants de cette façon-là. Là aussi, ce témoignage-là a été bien reçu par les commissaires. Puis la journée a commencé avec le docteur Alain Poirier, la docteure également Irma Clapperton, qui ont parlé de santé publique. Et le message qui a été martelé tout au long de cette présentation-là, Martin, c'est la prévention. On pense que la prévention peut vraiment contribuer à aider au sort des enfants. Puis on pense même que ça peut aider dans le développement, puis à l'âge adulte également. Pour le docteur Poirier, là, en fait, là, c'est ça peut même avoir un impact sur certaines maladies chroniques. Puis pour lui, ben, c'est comme un peu lutter contre le tabagisme que de faire de la prévention de la maltraitance en bas âge. Pour lui, donc, c'est important d'investir. Je pense qu'on peut l'entendre.
C'est difficile de dire qu'il faut arrêter de réagir. Quand quelqu'un saigne, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a besoin de soins, il faut le maintenir. C'est le choix que toutes les sociétés font. On commence par les services et les soins. Mais dans une société riche comme nous, même pauvre, il faut aussi avoir le courage d'investir en amont de la consultation, en amont de la salle d'urgence.
Et puis, un outil en amont, ce que M. Dr. Poirier nous disait, ben, il y a les agents de milieu, donc des gens qui interviennent en milieu scolaire ou dans la rue pour aider justement les enfants. Il y en a 19 en Estrie. On veut au moins les garder en poste, sinon en ajouter. On n'a pas de chiffres précis sur les objectifs qu'on vise, là, mais on parle d'intervenants vraiment qui peuvent guider les enfants, les parents à travers un système qui est quand même complexes lorsqu'ils ont besoin d'aide. Et on parle aussi de gens qui peuvent aider, contribuer socialement avec des activités sportives, tout ça. Il a même comparé avec quelqu'un de bien connu, c'est-à-dire Laurent Duvernay-Tardif, le rôle de ces agents de milieu-là. On peut l'entendre à nous.
Donc, nos agents de milieu, ce sont des mini-Laurents, mais à l'échelle d'un quartier pour les populations défavorisées, qui soient immigrants, qui soient d'une autre langue, qui soient pauvres, qui n'ont pas le transport pour accéder à différents services.
Ouais. Et là, il y a des gens également qui s'expriment aussi à huis clos, hein, des gens qui veulent se faire entendre.
Ben exactement. À tous les, ben hier c'était le cas également. Là, aujourd'hui, il y a eu deux personnes après Madame Pépin, il y a deux personnes qui sont exprimées à huis clos. Il y en aura une autre personne plus tard cet après-midi. Là, présentement, c'est un professeur de l'Université de Sherbrooke qui parle au commissaire. Il s'appelle Sylvain Bourdon. Lui, il parle surtout en fait de passage à l'âge adulte, de l'éducation comme processus d'insertion sociale.
C'est un mot important, ça, parce que ça a été noté souvent, ça, que les jeunesses qui sortent de la DPJ sont laissées à eux-mêmes.
Exactement. Puis lui, il voit dans l'éducation vraiment une façon d'aider ces jeunes-là. Puis notamment, là, lorsqu'on l'a questionné sur des recommandations, il dit, on met beaucoup d'emphase pour la lutte au décrochage, mais on parle peut-être pas assez du retour à l'école ou des formations de rattrapage. Alors, ça, c'est une piste qui offrait, là, mais son témoignage devrait se terminer bientôt. Ouais. Il y a aussi Giuseppe Contarini, qui est chef de service au CIUS de l'Estréchus. Lui, il est responsable de la Villa Marie-Claire. Il va s'adresser au commissaire plus tard cet après-midi.
Merci, Jérôme Roy.
Ça me fait plaisir, Martin.
Merci, il est à la commission, là.